VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi 23 janvier 2023. Le gouvernement burkinabé confirme avoir demandé le retrait des troupes françaises. Un nouveau rapport de Human Rights Watch dénonce les violations des droits humains au Tchad lors des manifestations du 20 octobre. Visite aujourd'hui en Afrique du Sud du chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov. Et le suspect de la tuerie qui a fait 10 morts en Californie a été retrouvé mort après s'être suicidé au terme d'une course-poursuite avec la police. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Eco. Au Ghana, la compagnie de téléphonie MTN conteste des arriérés d'impôts de près de 700 millions de dollars. Et pour l'espoir avec le Chan en Algérie, on joue la troisième et dernière journée du groupe C. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. Au Burkina Faso, le porte-parole du gouvernement a confirmé ce lundi que les autorités de Ouagadougou ont bel et bien demandé le départ des troupes françaises dans un délai de mois. Les précisions avec Rosine Monizero.
Ce que nous dénonçons, c'est l'accord qui permet aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso, a déclaré Jean-Emmanuel Ouédraogo, précisant que cette dénonciation des accords laisse un mois à l'autre partie pour accéder à la requête. Le Burkina héberge un contingent de près de 400 forces spéciales françaises, la force Sabre, non loin de Ouaga. Dans un courrier daté de mercredi, Ouagadougou dénonce et met fin dans son entièreté à l'accord du 17 décembre 2018 permettant la présence de ses soldats français sur le sol burkinabé. Hier après-midi, le président français Emmanuel Macron a dit qu'il attendait des clarifications de la part du Burkina Faso. Dans la soirée, la présidence française a indiqué attendre une confirmation au plus haut niveau. Le porte-parole du gouvernement burkinabé a répondu lundi, je cite, « Au stade actuel, nous ne voyons pas comment faire plus clair que cela ». Pour lui, cette demande de départ des forces françaises n'est pas liée à un événement en particulier. Le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en septembre, s'est donné comme priorité la reconquête du territoire sur les groupes djihadistes.
Au Niger, des représentants d'organisations internationales et de gouvernements sont réunis à Niamey pour travailler sur la protection de millions de civils dans la région du lac Tchad en proie à des violences djihadistes depuis une dizaine d'années. Lors de cette réunion de deux jours, organisée par le Niger, l'Allemagne et la Norvège, en collaboration avec les Nations Unies, les participants devraient renouveler leur engagement afin de permettre un retour plus rapide de la paix et renforcer la résilience de plus de 24 millions de personnes. Le recrutement des jeunes par des groupes extrémistes et la lutte contre les effets du changement climatique sont au programme des discussions. L'ONG Human Rights Watch dénonce dans un rapport paru ce lundi des meurtres, des décès en détention, des disparitions forcées et des actes de torture liés à la répression du 20 octobre au Tchad. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur des manifestants, tuant et blessant des dizaines d'entre eux, ont passé à tabac des personnes, les ont poursuivis dans des maisons et les ont arrêtés, peut-on lire dans le rapport. En raison de la gravité des crimes commis par les forces de sécurité tchadiennes le 20 octobre et les jours qui ont suivi, la communauté internationale devrait apporter une réponse forte, recommande l'Organisation de défense des droits humains. Selon le gouvernement, 621 personnes ont été arrêtées à N'Djamena et acheminées à Korotoro, une prison de haute sécurité en plein désert à 600 km de la capitale. Des témoins ont affirmé à l'ONG que plusieurs personnes sont mortes sur le trajet jusqu'à la prison en raison de privation de nourriture et d'eau. Human Rights Watch ajoute que les mineurs arrêtés lors des manifestations, 83 selon les autorités, ont été détenus dans les mêmes cellules et pièces que les adultes, au moins pendant les deux premières semaines. L'organisation pointe en outre plusieurs cas de disparition forcée.
Dans l'est de la RDC, au moins 23 civils ont été tués dans la nuit dernière lors de l'attaque attribuée aux ADF, les forces démocratiques alliées, dans le village de Makougoué, en territoire de Béni, au nord Kivu. D'après Roger Wangeve, le président de la société civile locale, parmi les victimes figurent 17 personnes qui se trouvaient dans une petite buvette où elles prenaient de la bière. Les ADF les ont toutes exécutées, a-t-il dit. Au moins 7 maisons d'habitation ont été incendiées, 3 pharmacies et 11 boutiques pillées, tandis que le nombre de civils emmenés en brousse n'est pas encore connu, a ajouté M. Wangeve. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est rendu ce lundi en Afrique du Sud pour s'entretenir avec l'un des plus importants alliés de son pays sur le continent africain. Mouamadou Mfa nous en dit plus.
À Pretoria, M. Lavrov a rencontré son homologue sud-africaine, Naledi Pandor, qui a salué une rencontre des plus agréables avec un partenaire précieux. La visite survient alors que l'Afrique du Sud va accueillir pendant 10 jours le mois prochain les marines russes et chinoises pour des manœuvres conjointes au large du grand port de Durban. Tous les pays effectuent des exercices militaires avec leurs amis, a déclaré Mme Pandor. Les exercices à venir reflètent une volonté de développer la coopération militaire, a de son côté souligné M. Lavrov. Plus de 350 militaires sud-africains vont participer à ces manœuvres prévues du 17 au 27 février et qui seront à cheval sur le premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. Moscou cherche le soutien de Pretoria qui a insisté à plusieurs reprises sur le fait que l'Afrique du Sud ne se laisserait pas entraîner à prendre parti dans ce conflit. L'Afrique du Sud a aussi pris la présidence des BRICS, un groupe qui comprend le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie, visant à contester les structures de la gouvernance mondiale dominées par les États-Unis et l'Europe.
La Zambie reçoit 2 responsables financiers les plus puissants au monde, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, sont arrivés séparément en Zambie. Bien que ces visites ne soient pas concertées, les deux autorités auront une rencontre informelle pendant leur séjour à Lusaka, a déclaré un responsable au Trésor. Le Parlement marocain a unanimement rejeté ce lundi les accusations qualifiées de fallacieuses des députés européens et toute ingérence dans les affaires du Royaume. En réponse à une résolution du Parlement européen s'inquiétant de la détérioration de la liberté de la presse dans le pays. Les deux chambres du Parlement se sont réunies en séance plénière à Rabat pour évaluer la résolution du Parlement européen qui s'est également inquiété des allégations de corruption pesant sur ce pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, les enquêteurs recherchent le motif de la fusillade qui a tué 10 personnes samedi soir dans un dancing californien. L'auteur présumé est mort dimanche à Torrance, à environ 45 km de Monterey Park, où s'est produite la fusillade, après une course-poursuite avec la police. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le shérif local, Robert Luna, a décrit une chasse à l'homme conclue par un coup de feu tiré depuis l'intérieur de la camionnette du suspect, qui se serait donc apparemment suicidé. Le suspect, d'origine asiatique et âgé de 72 ans, a été identifié comme étant Yukan Tran. Il était le seul recherché pour cette fusillade, a précisé M. Luna, ajoutant que le motif de cette attaque survenue pendant le réveillon du Nouvel An lunaire n'est pas encore connu et qu'une enquête est en cours. La majorité des 60 000 habitants de Monterey Park, ville située près de Los Angeles, sont d'origine asiatique. Toutes les pistes sont envisagées selon le shérif Luna. Les enquêteurs n'ont pas encore déterminé si les victimes ont été ciblées en raison de leur origine. Nous ne savons pas si c'est un crime motivé par la haine comme le définit la loi. Après avoir tué 10 personnes et blessé 10 autres, le tireur présumé est allé dans un autre dancing proche, mais il a été désarmé par 2 personnes avant de prendre la fuite. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière aux États-Unis depuis celle de mai dernier où un homme armé avait tué 21 personnes dans une école primaire d'Uvalde au Texas.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis à Bruxelles ont approuvé aujourd'hui une nouvelle aide à l'Ukraine d'un montant de 500 millions d'euros. Les ministres devaient également discuter de l'utilisation des avoirs russes gelés en Europe pour aider à la reconstruction de l'Ukraine ainsi que d'un dixième de train de sanctions contre la Russie qui doit entrer en vigueur le mois prochain. La Hongrie, farouche critique des trains de sanctions imposés à Moscou, a approuvé l'aide militaire mais a signalé son opposition à de nouvelles sanctions, en particulier si celle-ci devait restreindre la coopération de Budapest avec Moscou dans le domaine de l'énergie nucléaire. L'Estonie et la Lettonie ont demandé le départ des ambassadeurs russes de leur territoire après que la Russie a annoncé aujourd'hui l'expulsion de l'ambassadeur estonien accusant Tallinn de russophobie totale. La Lettonie, par solidarité avec l'Estonie, a dit à l'ambassadeur russe de partir avant le 27 février, selon un tweet du ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevich. Les les deux pays ont déclaré qu'ils abaissaient le niveau des relations diplomatiques avec la Russie au niveau des chargés d'affaires. Et puis, les élections présidentielles et législatives en Turquie auront lieu le 14 mai, soit avec un mois d'avance sur le calendrier prévu, a annoncé Recep Tayyip Erdogan. Ces élections étaient initialement prévues le 18 juin, mais le président turc avait déjà laissé entendre qu'elles seraient avancées. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Mouamadou Mfa.
Au Ghana, la filiale locale de la compagnie panafricaine des télécoms, MTN, s'oppose au redressement de 686,4 millions de dollars décidé par le Trésor pour fraude fiscale entre 2014 et 2018. Hors intérêts et pénalités, le nouvel avis d'imposition suggère que l'entreprise aurait sous-déclaré ses revenus d'environ 30% au cours de cette période. Au Soudan, de nombreux agriculteurs et producteurs de la gomme arabique peinent à composer avec le climat aride et la désertification ainsi qu'à la fluctuation des cours mondiaux de ce produit essentiel pour la production mondiale des boissons gazeuses. Ils préfèrent donc couper leur acacia et les vendre pour en faire du charbon afin d'avoir un revenu plus stable ou travailler dans des mines d'or aux alentours. Face à cette situation, le Soudan qui a exporté en 2021 88 000 tonnes de gomme arabique pour 110 millions de dollars selon la Banque mondiale s'active pour remplacer les acacias abattus. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, et plusieurs ministres sont arrivés dimanche en Algérie, premier exportateur gazier d'Afrique. Avant l'invasion de l'Ukraine, l'Italie importait 95% du gaz qu'elle consommait, dont environ 40% provenait de Russie. Pour réduire cette dépendance, Rome se tourne de plus en plus vers l'Algérie, historiquement son deuxième plus grand fournisseur.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Football à la une, le CHAN en Algérie avec la troisième et dernière journée du groupe C.
Oui, un groupe à trois après le forfait du Maroc et le Soudan dos au mur a impérativement besoin d'une victoire devant Madagascar ce soir. Les Malgaches, leaders du groupe, n'ont besoin que d'un match nul pour rejoindre le Ghana. Déjà qualifié hier, le groupe B a livré ses deux qualifiés. Ce sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les Sénégalais terminent en tête après avoir corrigé la RDC 3-0. Les Ivoiriens victorieux 3-1 de l'Ouganda finissent à la deuxième place et affronteront en quart le pays hôte, l'Algérie.
Cyclisme début ce lundi de la tropicale Amissa, Bongo.
Une course par étapes gabonaise qui retrouve sa place dans le calendrier international après deux éditions annulées pour cause de Covid-19. La première étape a été courue entre Bitam et Oyem, longue de 122,5 km avec un circuit fermé à l'entrée de la ville d'Oyem. Elle a été enlevée par le Français Geoffroy Soupe, qui devient du coup le premier maillot jaune de cette édition 2023 de la Tropicale Amissa Bongo. Au total, 7 étapes pour une distance de 930 km seront parcourues par 15 équipes venues d'Afrique et d'Europe. Et parmi elles, le Bénin avec 6 coureurs dirigés par un nouvel entraîneur, le Rwandais Adrien Niyonshuti, un choix fort qu'explique le président de la fédération, Romial Azoumé.
Nous sommes passés dans les compétitions de 2.1. Il nous faut un coach qui a l'expérience de 2.1, qui a l'expérience du vélo à ce niveau-là. C'est pour ça que Team Africa Rising nous a conseillé cet entraîneur rwandais qui vit en Italie et qui devient notre coach national avec des suppléants qui sont Fernand Ganaro, Charles Rancinon et Papouen qui a fait le boulot jusqu'à présent.
Romial Azoumé, le président de la Fédération béninoise de cyclisme.
NBA Irving et James Bree, le Thunder fait chuter les Nuggets.
Voilà 6 matchs que les Nets jouent sans Kevin Durant, blessé à un genou. Il fallait donc, après 4 revers, que Kyrie Irving prenne le relais en attaque, ce qu'il a brillamment fait chez le Jazz vendredi avec 48 points et 7 fois encore chez les Golden State Warriors, 38 points. Pour le deuxième succès d'affilée des siens, 120-116, les Warriors glissent en 10e position, 2 rangs au-dessus des Lakers, vainqueurs chez les Blazers, 121-112, dont 37 points de LeBron James. À Denver, l'absence de Nikola Jokic, touché à l'ischio-jambier gauche, a été préjudiciable aux Nuggets face à Oklahoma City, vainqueur 101-99. Denver conserve malgré tout son avance sur son dauphin Memphis, dont le réveil a été trop tardif à Phoenix, 112-110. Les Clippers ont fait forte impression chez les Mavericks, 112-98. Les Mavs restent 5e à l'ouest. Au-dessus d'eux demeurent les Pelicans 4e, battus par Miami 196.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le Burkina Faso a confirmé sa décision de mettre fin à l'accord militaire avec la France, a déclaré ce lundi le porte-parole du gouvernement Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les autorités burkinabées estiment que le pays doit se défendre lui-même. Lamine Traoré, notre correspondant au Burkina Faso, a recueilli les réactions à Ouagadougou.
Les quelques 300 militaires français stationnés à Cambouinsin, au nord-est de Ouagadougou, ont un mois pour quitter le pays. Le Burkina a dénoncé l'accord militaire qui permet ce stationnement des forces françaises. Cette dénonciation, selon le porte-parole du gouvernement, intervenant à la télévision nationale, est dans l'ordre normal des choses. Jean-Emmanuel Ouedraogo, porte-parole du gouvernement.
Elle est prévue dans les termes de l'accord militaire qui permet bien sûr le déploiement des forces françaises ici au Burkina Faso. Donc l'article 16 en l'occurrence donc en tout cas prévoit la dénonciation, une dénonciation qui est une sorte de préavis qui laisse donc un mois à l'autre partie bien sûr pour accéder à cette requête.
Sauf qu'à Ouagadougou, ce départ des militaires français de l'opération dénommée Sabre est diversement apprécié. Évariste Consimbo, analyste politique.
Les Africains aiment bien changer tout. Mais quand vous changez, il faut avoir un autre dispositif. Déjà la question, quel est le dispositif donc qui a été donc prévu pour donc parer donc à toute éventualité avec ce départ-là? Est-ce que cette dénonciation est légale et respecte les formes? Parce qu'à mon avis, cet acte relève donc d'un accord. Et comme tout accord, il y a dû avoir l'aval de l'Assemblée.
Serge Bayala, acteur de la société civile, militant panafricain.
Nous avons fait une action pour inviter l'armée française à quitter les territoires du Sahel parce que sa présence se justifiait moins, parce qu'il y avait une montée en puissance des groupes terroristes, alors qu'ils étaient censés contribuer à baisser la capacité de nuisance de ces groupes-là. S'il y a d'autres qui n'ont pas encore compris qu'ils doivent défendre leur présence avec humilité, en abandonnant l'orgueil colonial, pour se mettre à hauteur de dignité égale, pour discuter avec leurs partenaires africains, eh bien, ceux qui le comprennent mieux et qui comprennent les revendications psychologiques, les revendications d'aspiration à la souveraineté, ils prendront la place de ceux qui ne l'ont pas compris. Et c'est ce qui se passe.
Le président Macron, qui a réagi dimanche, a demandé au capitaine Traoré plus de clarifications. Nous ne voyons pas comment faire plus clair que cela, a réagi toujours ce lundi Jean-Emmanuel Ouedraogo, le porte-parole du gouvernement. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, le corps d'un célèbre animateur de radio a été retrouvé dimanche en état de décomposition avancée sur un terrain vague dans la banlieue de Yaoundé. Martinez Zogo, chef de station d'une radio urbaine, a animé pendant plusieurs années une émission de grande audience dénommée « Embouteillage » dans laquelle il a dénoncé quelques jours avant sa mort les détournements de fonds présumés. Sa disparition a été signalée le 17 janvier. Aujourd'hui à Yaoundé, sa mémoire est saluée par les Camerounais, comme nous le dit notre correspondant Emmanuel Julenta.
Une chapelle ardente en la mémoire de l'animateur radio Martinez Zogo. Des hommes de médias, des proches du disparu et autres anonymes se succèdent dans l'enceinte de la radio Amplitude FM où il a officié ces dernières années. À Manmana, est président de la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun.
Il y a un sentiment de honte. Quand chez nous, nous sommes pensés. Mais je voudrais que nous gardions toute la raison encore. Parce que ceux qui l'ont fait sont des sous-humains.
Quelques jours avant sa disparition, Martinez Zogo a dénoncé les détournements présumés de fonds à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA impliquant des membres du gouvernement et leurs proches. Le syndicat national des journalistes du Cameroun s'engage à poursuivre sa mission. Écoutons son secrétaire à la communication, Samuel Mondjong.
Le syndicat national des journalistes du Cameroun sera toujours là pour dénoncer ce crime odieux, pour dénoncer cette situation d'atteinte grave à la liberté de la presse, attenté à la vie d'un journaliste. Je crois que c'est extrêmement grave.
Cet assassinat interpelle toute la corporation, estime le journaliste Jean-Benoît Tagne.
À travers la barbarie de l'assassinat de Martinez Ogo, c'est un message de peur que l'on veut instiller au milieu des journalistes et dans les milieux de tous ceux qui ont décidé de ne pas se taire face à la forfaiture que l'on observe dans ce pays.
Ce lundi, le gouvernement condamne dans un communiqué l'attaque dirigée contre un homme de médias. Il révèle que le corps de l'animateur Martinez Ogo a visiblement subi d'importants sévices corporels. Charlie Aimé Tchomo, rédacteur en chef d'Amplitude FM, ne cache pas sa colère.
C'était horrible, c'était terrible, surtout quand on a vu son corps. Tout sauf ça, pourquoi? Il était nu, comme ses parents l'ont mis au monde. Et au-delà de tout, le corps avait déjà gonflé, dégagé de ce corps une odeur très nauséabonde.
Plus d'un millier de personnes prévoient une marche de protestation en direction du palais présidentiel le jeudi 26 janvier à l'initiative de Roger Chantal Tulé, un ancien journaliste converti à la politique.
Ce qui s'est passé là, la langue coupée, ça veut dire taisez-vous, celui qui parlera sera mort. Désormais votre profession n'existe plus, c'est pour ça que nous allons au palais de l'unité dire au président Biya, reçois-nous. Tu as dit que tu seras retenu par l'histoire comme l'homme qui a porté la prospérité et la démocratie. On ne peut plus parler.
La radio Amplitude FM a déposé deux plaintes contre inconnu après la découverte macabre de son chef de station, Emmanuel Junta, VOA Afrique, Yaoundé.
La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a annoncé un processus de paix visant à résoudre la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le Canada a accepté donc de jouer le rôle de facilitateur. Yacouba Ouédraogo a recueilli à Yaoundé la réaction de Joshua aussi. Il est le vice-président du SDF, le Social Democratic Front, un parti d'opposition.
Nous ne pouvons qu'être contents et saluer cette annonce qui va contribuer certainement, si ça progresse, au retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et nous pensons que c'est une très bonne chose. Et donc nous sommes du côté de toutes les mesures, toutes les tentatives qui sont menées pour un retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Avant le Canada, il y a eu la Suisse qui a tenté une médiation. Il y a eu le dialogue national. Qu'est-ce que ça va changer, le fait que ce soit le Canada?
Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui change à part le contexte. Le grand dialogue national était nécessaire, c'était un pas dans la bonne direction et il y a eu beaucoup d'avancées grâce à ce grand dialogue national. Et le grand dialogue national était, comme son nom l'indique, une discussion nationale, pas uniquement focalisée sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bien sûr, 80% de ce qu'on a fait était là-dessus. Je pense qu'on a des nouvelles lois. On a une loi sur le bilinguisme qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas avant le grand dialogue. On a le statut spécial qui existe, qui n'existait pas avant. On a beaucoup d'avancées qui sont arrivées grâce à ce grand dialogue. Et je pense que les Suisses ont aussi beaucoup fait et surtout les Suisses ont pu identifier qui est qui dans cette crise, les avancées qu'ils ont pu apporter, surtout qui sont encore en discussion avec le gouvernement de la République jusqu'à aujourd'hui, sont pas des petites avancées. Aujourd'hui, le Canada emboîte le pas et c'est un pas de plus dans la bonne direction.
La question qu'on se pose justement, c'est qu'est-ce que les séparatistes vont amener à la table des négociations, si négociations il y a.
Je souhaite qu'ils commencent à comprendre raison et qu'ils commencent à comprendre que ce n'est pas par la violence qu'on peut régler ces problèmes. Et je pense que dès le départ de cette crise, notre parti a toujours dit que pour régler quelques problèmes que ce soit dans notre pays, le lieu indiqué c'était la table de négociation et pas de prendre des armes et d'envoyer des jeunes au front de guerre se faire tuer de la façon dont c'est arrivé. On ne peut pas corriger ce qui est arrivé, c'est arrivé. On doit malheureusement vivre avec toutes nos vies, mais on peut au moins espérer que après 6 années de quasi-guerre, que les uns et les autres commencent à comprendre raison, et quand les discussions arriveront, qu'ils arrivent avec des meilleures prédispositions que celles qu'ils ont eues ou qu'elles ont eues, qui étaient mises en question lors des discussions du Grand Dialogue et lors des discussions avec les Suisses.
C'était Joshua Ozi, premier vice-président du Social Democratic Front.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, un nouveau sondage indique que 64% des Américains estiment que la gestion des documents classifiés par le président Joe Biden est inappropriée. Les résultats du sondage ABC Ipsos sont publiés alors que de nouveaux documents confidentiels ont été découverts dans la résidence du président américain. Veronica Balderas-Iglesias de la VOA donne les détails, le récit avec Lionel Gaïma.
Une série de notes et 6 documents supplémentaires portant des marques classifiées, voilà ce que le FBI a trouvé après la perquisition effectuée vendredi au domicile du président Joe Biden dans le Delaware, avec l'accord du dirigeant américain. Certains papiers remontent à l'époque où Biden était sénateur. Il pourrait s'agir d'une erreur de classement, a déclaré le sénateur démocrate du Delaware, Chris Coons, à l'émission This Week sur ABC.
Au fur et à mesure que les affaires que vous traitez sont plus importantes et parfois plus classifiées, le volume augmente. Donc je pense que c'est par inadvertance. Je ne pense pas non plus que ce soit un problème qui empêche les Américains de dormir la nuit.
Un nouveau sondage ABC News Ipsos, réalisé avant la révélation de la dernière perquisition du FBI, montre que 64% des Américains estiment que le président Biden a agi de manière inappropriée avec ses documents classifiés. 77% de personnes interrogées considèrent que la manipulation par l'ancien président Donald Trump de documents classifiés qu'il a conservés dans sa maison de Floride, après avoir quitté la Maison Blanche, est encore plus grave. Les deux dirigeants font l'objet d'une enquête menée par les procureurs spéciaux nommés par le ministère de la Justice. La veille de la perquisition du FBI, le président Biden a réaffirmé qu'il coopérait pleinement avec les autorités concernées.
Je pense que vous allez découvrir qu'il n'y a rien là. Je suis ce que les avocats m'ont dit qu'il fallait que je fasse.
Le représentant républicain Michael McCaul a déclaré à ABC que l'ampleur des éventuelles retombées politiques dépendra de plusieurs facteurs.
Le Watergate a commencé comme un tout petit cambriolage. Il a conduit à la démission d'un président des États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dessous jusqu'à ce que nous voyions les documents. S'il y a des documents de sécurité nationale liés à des adversaires de nations étrangères.
Pourquoi l'actuel et l'ancien président ont gardé en leur possession des documents classés secrets plutôt que de les acheminer aux archives nationales? C'est une question que les procureurs indépendants devront creuser. Voici ce que le sénateur démocrate Joe Manchin a déclaré à l'émission Meet the Press de NBC.
Aviez-vous l'intention de nuire à quelqu'un? Aviez-vous l'intention de faire une chose fondamentalement irresponsable? Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux l'ait fait, je l'espère, mais ils ont été irresponsables.
Il a insisté sur le fait que le peuple américain veut des comptes et qu'il aurait dû y avoir des meilleurs freins et contrepoids.
Voilà. Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.